Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette émission Autour du Livre. Un rendez-vous que vous pouvez retrouver tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h à 21h. Ainsi qu'une rediffusion le quatrième mercredi à la même heure. Donc sur le 102.2 ou sur le web donc www.rtvfm.net. Une émission que vous pouvez aussi réécouter en podcast après sa première diffusion sur notre site web. Alors Autour du Livre, eh bien c'est une émission culturelle, littéraire avant tout. Donc ce sont des rencontres avec un ou plusieurs auteurs, illustrateurs, libraires, éditeurs locaux et de régions voisines. J'invite des lecteurs aussi, des lectrices qui souhaitent venir nous parler du livre qui a bousculé jusqu'à parfois changer leur vie. Autour du Livre aussi, ce sont des petites annonces sur les événements autour donc du livre qui se déroulent sur Carpentras et les villages alentours. Ce sont aussi des lectures à une, deux ou trois voix, des livres coup de cœur, des chansons à texte ou des musiques à thème. En ce mois d'avril, eh bien, j'accueille deux auteurs, Martine Plataré et Pascal Demeure. Martine va nous parler de ses nombreux romans, adultes et jeunesse, ainsi que Pascal qui lui aussi écrit pour un public adulte et jeunesse. Donc tout au long de cette émission, j'ai voulu, par le texte et la musique, rendre hommage à un chanteur que j'aime beaucoup, qui nous a quittés ce vendredi 6 avril à l'âge de 77 ans. Je veux parler, comme vous le savez tous, de Jacques Higelin, un poète, chanteur, comédien. Il a marqué de son empreinte la musique en France, au point d'inspirer des générations d'artistes. Il vient du jazz et il s'est dirigé dans les années 70 vers le rock. Je vous laisse l'écouter tout au long de cette émission. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec une première chanson très connue. Bonne écoute.
Tombé du ciel à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air. Un peu volage, ancien tueur à gage. Comment peut-on tomber plus bas? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tomber du sommeil, perdu connaissance, retomber en enfance au pied du grand. Par où le vent fredonne ma
Ma première invitée, Martine Plattaré. Je vous laisse donc écouter cette interview. Martine Plattaré, bonjour.
Bonjour.
Alors Martine, vous êtes de Sorgues.
Oui, tout à fait.
Ça fait une quinzaine d'années que vous êtes sur Sorgues.
Tout à fait, quinzaine d'années.
Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que vous aimiez écrire, vous écrivez depuis déjà quelques années, et que vous aimiez écrire pour le plaisir. Donc maintenant, est-ce que vous êtes toujours en activité ?
Non, je ne suis plus en activité depuis pas mal d'années, donc c'est pour ça que je me suis mise dans l'écriture et dans la peinture, mais surtout dans l'écriture, par plaisir et par passion surtout.
Alors, comment est-ce que votre premier livre, comment est-ce qu'il est arrivé comme ça dans votre vie ? Qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez démarré ce premier livre ?
Ce premier livre, je l'ai démarré de manière à supprimer la pudeur que j'avais dans ma famille. Donc, j'étais quelqu'un d'assez têtu, rebelle, et j'ai voulu le faire au départ pour mes enfants. Donc j'ai fait en nouvelles, elles se suivent toutes, du bon temps jusqu'au départ de mon père. Et j'ai retrouvé mes anciens cahiers, j'ai pu tout sortir et tout reprendre, notamment ce qui était en sténo, puisque pour ne pas que ma mère puisse lire, parce qu'elle trouvait toujours mes cachettes pour mes cahiers. Et donc j'ai appris ma sténo et je me suis remise donc à écrire. Je me suis mise à écrire tout doucement, du bon temps jusqu'au départ de mon père pour faire ma thérapie. Voilà, c'était une thérapie pour moi.
Donc ce premier livre, je rappelle le titre, c'est « Souviens-moi » et c'est un livre autobiographique.
Tout à fait. C'est toute ma vie.
Alors un deuxième livre est apparu, donc c'était plus, vous avez essayé la poésie.
Oui, c'est tout à fait ça. J'ai essayé la poésie. Je ne suis pas une grande poétesse. J'ai fait quelques poésies sur Vivre et Aimer. Ça s'appelle Vivre et Aimer. Et donc, j'ai voulu faire de la poésie simple, pas recherchée comme Baudelaire ou d'autres poètes qui sont renommés. C'était un livre pour clôturer, en fait, et tourner une page sur mon passé, sur mon chemin de vie, mon autobiographie.
Et donc, voilà, donc ça c'était une étape, deux ouvrages qui vous ont permis de tourner la page pour passer à autre chose. Alors, cette autre chose, ça a commencé par quoi ?
Alors, la quête de Jade, pourquoi ? Parce que j'ai habité 6 ans à Avignon et j'avais envie de parler de l'histoire d'Avignon, donc du festival, Gérard Philippe, Jean Villard aussi. Je me suis remémoré quand même des souvenirs de ma jeunesse avec ma mère qui marchait sur les pavés avec ses talons, etc. Et là, j'ai créé Jade. Jade et puis sa quête, ce qu'elle va chercher donc sur Avignon, elle va s'installer à Avignon, ce qu'elle va chercher donc après, ben, il faut le lire pour découvrir ce qu'elle va trouver. Mais en même temps, il y a une petite intrigue. Donc c'est une belle romance, c'est une romance avec une intrigue.
Alors, donc ça, c'est votre premier livre à partir de cette deuxième étape de votre vie. Donc, un autre livre, Loup, ça, c'est l'histoire d'une jeune femme, 16 ans. Pareil, une romance, une intrigue.
Oui, c'est une romance et une intrigue en même temps. Elle perd son meilleur ami à l'adolescence. Et donc, à sa majorité, elle décide de partir sur Paris. Et là, elle va faire de nombreuses rencontres, notamment, elle va aimer un homme, mais en même temps, son passé va la rattraper par une autre personne. Et là, il va avoir cette intrigue, plus une cour de cassation, un procès. Ça va partir jusque Londres. Et finalement, tout va commencer. Allez, un petit indice, si je vous dis tout va commencer à Montmartre, tout va se terminer à Montmartre. Alors, je dois rajouter aussi que dans ce livre, j'ai de nombreux auteurs qui sont auto-édités ou non auto-édités, comme moi, qui m'ont offert des poésies, afin que je puisse les mettre, qui correspondent à certains états de cette jeune fille, Lou.
La quête de Jade, Lou, une vie mise à nu, ça c'est un polar.
Oui, je dirais que au départ c'était une nouvelle, oui. Et puis je l'ai transformée en polar, j'ai laissé dormir, et c'était une colère qu'il fallait que je sorte en moi, donc j'ai fait payer l'homme, voilà.
Et donc voilà,
c'est un règlement de compte. Ouais. J'ai pris quand même des témoignages, j'ai demandé des témoignages auprès d'anciennes prostituées, donc qui ont bien gentiment, joué le jeu et qui m'ont, en même temps, il y a des passages crus quand même, puisque c'est normal, il y a leur parler cru à elles. Mmh. Mais en même temps, il y a quand même une petite romance. J'ai mis beaucoup de personnages. Donc, si j'ai fait mis beaucoup de personnages, j'ai voulu brouiller un peu les pistes pour que le lecteur se casse un peu la tête et cherche un peu le responsable. Voilà.
Alors, le silence de quête, on est encore dans le roman policier, là.
On est dans le roman policier avec toujours un fait de société. Là, c'est sur la drogue du violeur. Donc là, j'ai voulu toucher un peu du doigt, comme pour une vie mise à nu, c'était sur la prostitution. Là, c'est sur la drogue du violeur. Beaucoup de jeunes aiment le lire parce que ça peut arriver. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Donc là, il y a quand même une belle romance quand même. Mais il y a cette intrigue. Et puis en même temps, je laisse toujours une part de romance et beaucoup d'histoires aussi.
Oui, hein, parce que le silence de quête, par exemple, vous dites que ça se passe entre l'île sur la Sorgue et l'Italie.
Oui, l'île sur la Sorgue, l'Italie, Portofino. Et en même temps, je l'ai fait voyager sur Avignon, le Mont Ventoux, Sceaux, Mougneux aussi, pour faire connaître un peu la région provençale, la Provence, donc à tous les lecteurs qui le liront, ou ici en Provence ou ailleurs.
On va faire une petite pause musicale, Martine, et puis on revient tout de suite après.
Thank you. sorcière font trembler la terre au rythme de tes pas. Danse, danse devant moi. Dresse ta fierté sauvage et libre. À la lueur des flambeaux, devant les hommes qui flattent leurs chevaux. Serre-moi contre ton corps. Serre-moi. Serre-moi de plus en plus fort. Serre-moi. Serre-moi contre ton corps. À l'idée de la mort. Pour m'arracher à l'idée de la mort.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Je suis en compagnie de Martine Plattaré, donc pour tous ses ouvrages, elle en a écrit une bonne quinzaine. Donc elle s'adresse un peu, on va dire, à différents lecteurs. Alors Martine, vous avez écrit des enquêtes du commissaire Victor Pérez. Qui est Victor Pérez?
C'est mon père. Victor Pérez est mon père. Je l'adore. Je l'adorais. J'ai toujours aimé. Voilà, comme une fille a aimé son père, mais il n'est plus de ce monde depuis bientôt 6 ans. Et j'ai eu l'idée de lancer. Donc au départ, c'était tout simplement Au-delà de la vie, le premier. Je n'avais pas encore donné de nom à mes personnages. Et puis je me suis dit, c'est une évidence. Je vais y mettre mon père. Ça lui fera un bel hommage. Alors c'est vrai que dans cette trilogie, pour l'instant c'est une trilogie puisqu'il y en a 3, dans cette trilogie, je mets quand même ce qu'aurait aimé mon père, un peu de dérisoire dans leur vie. De mon commissaire Victor Pérez qui va travailler avec Paul Legrand, le commandant de gendarmerie de Saint-Juriot, qui est en fait mon oncle. Et donc là, ils aimaient bien se chamailler plus jeune, donc je mets un peu parfois des paroles un peu dérisoires, comme aurait aimé mon père, puisque lui-même a écrit sa vie et il a écrit avec beaucoup de dérision.
Donc 3 ouvrages, 3 romans, hein. Au-delà de la vie, le premier, Rattrapé par le passé, le deuxième, et Meurtre en eau trouble. Donc tous ces livres, Martine, vous les avez écrits, donc auto-édités?
Oui, auto-édités. J'ai tenté l'édition et ça n'a pas marché puisque j'ai été déçue par la maison d'édition. Donc je suis repartie dans l'auto-édition et puis vers Amazon et j'en suis fort contente.
Donc si on veut se procurer vos ouvrages, où on s'adresse à vous directement? Sur votre page Facebook?
Oui, tout à fait, ma page Facebook, page auteur sans E, Martine Plattaré, ou alors sur Amazon, et là on trouve tous mes livres.
Alors je précise l'orthographe de Martine Plattaré, donc Plattares. Voilà, alors donc les enquêtes du commissaire Victor Pérez, donc il va y avoir une suite.
Oui, j'envisage une suite. Pour l'instant, je les laisse en pause. Je les ai mis en vacances. Tous les deux, ils sont assez fatigués. Oui. Donc, je suis en train d'attaquer un roman, normalement, qui aurait dû démarrer une belle romance, mais bon, qui démarre plutôt une intrigue. Mais bon, ça va se terminer en roman, je pense. Donc là, je les mets en pause et je vais les reprendre dans quelques temps. Voilà, je vais les faire voyager, je pense, encore.
Alors, Meurtre en nous trouble, c'est un livre qui vient de paraître là, tout récemment.
Oui, je les ai reçus aujourd'hui. Ouais.
Ah,
je suis très contente. Ça se passe entre Chalon-sur-Saône, Annecy. Ça bifurque un peu vers Grenoble et surtout Nice. Parce que j'aime particulièrement Nice. Pourquoi? Parce que j'ai de la famille à Nice. Mon grand-père a vécu à Nice. Donc, j'aime Nice. Donc, voilà. Donc, sachant que dans Chalon, il y a la Saône. Annecy, il y a le lac. Et puis à Nice, il y a la mer. Donc voilà, d'où le meurtre en eau trouble.
On va faire une petite pause musicale, Martine, et puis on revient tout de suite après.
Elle est si touchante que autour d'elle tout chante l'amour de la vie, si belle et si charmante, qu'autour d'elle tout s'enchante. Elle est si sensuelle que mâle et femelle tombent en extase, se pâment et se pavanent devant sa caravane. Elle est si jolie, craquante et sexy, que ses fans adorent, qu'elle rugisse et qu'elle ose, suggérée par ses poses, la danse du lion. Qu'est-ce qui l'a fait bondir, sauter et rugir, de colère ou de joie, de rage ou de plaisir? La marque boutée entre terre et ciel qui fait vibrer ses ailes, rebelle, rebelle. Elle est si touchante qu'autour d'elle tout chante, la nuit comme le jour. Et parfois c'est cruel qu'on se flinguerait pour elle. Elle est si vivante, drôle et désarmante, qu'on toucherait du doigt ce qui vibre en elle, la toute petite parcelle de l'âme. Elle est si sublime que c'est presque un crime de vouloir l'enfermer parfois entre mes bras. Elle est si volage, si libre et sauvage, que la mettre en cage est juste impensable. Moi j'aime comme elle est, comme je la crois, comme je la sais.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Alors Martine, vous ne vous arrêtez pas là, hein. Rien ne vous arrête. Vous avez écrit des livres jeunesse, Le Rêve de Théo, L'Ours de Colline, Le Cirque en Provence, Le Chevalier. Mais par exemple, le livre de Théo, vous l'avez aussi traduit en braille. Pourquoi cette démarche?
Alors, Le Rêve de Théo, c'était mon premier livre parce que j'estime que chaque enfant a un rêve. Et en allant dans une école à Sorgues faire une intervention, j'ai remarqué qu'il y avait des enfants qui apprenaient le braille. Donc, de ce fait, j'ai contacté une association pour le faire traduire en braille et faire bénéficier les enfants non-voyants. Ensuite, je suis partie, j'ai bifurqué vers l'écriture dyslexique pour les enfants dyslexiques, puisque ma fille était dyslexique elle-même.
Avec L'Ours de Colline.
Avec L'Ours de Colline et Le Cirque en Provence. J'ai tourné un peu à la façon de Marcel Pagnol. Je me suis vraiment régalée, je pense. J'espère que les enfants se régalent aussi. Livres qui sont en coloris également, donc ça motive l'enfant qui a du mal à lire. Commence à colorier, puis le lire, et il s'en sort très bien, d'ailleurs.
Par exemple, Le Cirque en Provence, c'est un petit peu des souvenirs de votre enfance. C'est quoi l'histoire de quoi?
Alors, c'est le clown qui se rend au chevet d'un enfant malade, et en voyant un brin de lavande, il lui dit, allez, viens petit, je t'amène dans ma Provence. Et là, je retrouve tous les souvenirs avec mon grand-père, la chasse aux cigales, quand il nous mettait les cigales dans les mains, pour les sentir vibrer, les cigales dans ses poches, pour les voir sautiller, les moustiques, la boule de pétanque, et puis tout le reste, tout ce qui est en Provence, hein, le mistral dans les oliviers. Donc il y a tellement de choses, les oiseaux, et voilà, c'est la Provence, sa Provence entière, avec l'accent en plus.
Donc 4 livres jeunesse, 6-8 ans, et le chevalier par exemple, lui c'est un 9-12 ans. Pourquoi alors celui-là, le chevalier ?
Alors, le chevalier, c'était au départ un concours que j'ai fait avec, ça s'appelait la Cabane à mots à l'époque, hein, c'était une maison d'édition, et c'était un concours fantastique, sur le fantastique. Et j'ai lancé mon histoire, et puis finalement, cette personne m'a dit, faites plutôt un livre pour ados, pré-ados, parce que c'est plus de l'aventure que du fantastique. Et j'ai fait ce livre, c'est comme une petite nouvelle, une nouvella, comme on dit maintenant, et donc... ça plaît beaucoup aux pré-ados et aux ados aussi.
Une femme ressource aussi, hein, on va dire, Martine, parce que vous avez beaucoup de, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité dans tous vos ouvrages, parce qu'ils sont quand même tous, je trouve, très très différents les uns des autres. Et d'ailleurs, je ferai une petite lecture de Au-delà de la vie, qui est votre premier sur les enquêtes du commissaire Victor Pérez.
Au-delà de la vie de Martine Plataré, un roman auto-édité. Le 4e de couverture. Charlène, jeune femme de 29 ans, se réveille à l'hôpital à la suite d'un accident. Amnésique, elle ne sait ce qui lui est arrivé. Elle ne reconnaît personne. Son frère policier dans la scientifique à Chalon-sur-Saône va mener son enquête en collaboration avec Paul Legrand, commandant de la gendarmerie de Saint-Jorios, proche d'Annecy, et Victor Pérez, commissaire de police à Chalon-sur-Saône. Ce trio va faire de terribles découvertes qui vont les conduire vers des faits troublants sortis d'un livre écrit par Charlène elle-même. L'intrigue se passe entre ces trois villes. Que vont-ils découvrir ? Charlène va-t-elle recouvrer la mémoire ? Un extrait de ce roman. Je me sens soudain très mal. J'ai dû avoir un terrible accident. Je touche mon visage qui me paraît autre. Il est boursouflé. J'ai peur. Je réclame un miroir. L'infirmière grimace et part en chercher un. Le médecin reste près de moi. Bon sang qu'il est beau. A-t-il une alliance ? Je tourne discrètement la tête pour apercevoir sa main. Il n'en porte pas. Mais cela ne veut rien dire. Et si j'étais défigurée ? L'infirmière revient avec un petit miroir. Elle le tend devant moi et j'aperçois mon visage tuméfié et violacé. Je pousse un cri. Où est passée la jeune femme que j'étais ? Je cherche ma longue natte rousse. Elle est toujours là. Mes yeux sont tellement enfoncés qu'on a du mal à les voir. Tout mon visage est gonflé. Mais que m'est-il arrivé ? Je ne me souviens de rien. Je me laisse aller sur mon oreiller à réfléchir sur mon passé. Mais quel passé ? Qui suis-je ? À cet instant, le médecin et l'infirmière se regardent avec stupeur. Celle-ci s'éclipse et le bel homme s'assied près de moi. J'ai honte. Je tourne la tête de l'autre côté. Je ne veux plus qu'il me dévisage. Je n'ai plus envie de parler. Je suis si fatiguée. Je fais mine de m'endormir et j'entends la porte de ma chambre se refermer derrière lui. Bon sang, mais qui suis-je ? Et que m'est-il arrivé ? Pourtant, j'ai bien reconnu mon père dans ce si beau jardin. Il se nomme Pierre. C'est tout ce que je sais. Dans l'après-midi, l'infirmière revient dans ma chambre, une tasse de thé et 2 galettes sur un plateau. Elle en profite pour changer mes perfusions. Mon père s'appelle Pierre, lui dis-je. Comment le savez-vous ? Ben, je l'ai vu là-haut. Où ça ? Quelle importance ! Pierre est mon père. Et à part ça ? Rien. Attendez. Quel jour sommes-nous ? Dimanche 20 janvier 1999. Mais depuis combien de temps je suis ici ? Cela fait 15 jours. Tant que ça ? Ben oui, vous étiez dans le coma. Je vous laisse, je reviens plus tard. Qu'ai-je dit pour la faire fuir ainsi ? Ma tête me fait mal. Je me pose trop de questions. J'ai perdu la mémoire. Pourquoi ne me dit-on rien ? Je ne peux pas me lever. Mon bras droit est pris dans un plâtre. Mon corps tout entier n'est que souffrance. Je ne peux pas bouger. Heureusement, je suis gauchère. Je m'en rends compte en attrapant la sonnette. Une jeune infirmière arrive aussitôt.
Je souhaite que l'on approche mon lit de la fenêtre. Bizarre, je ne reconnais rien. Le paysage m'est totalement inconnu. Mais qui suis-je donc ? Lorsque Jean et Lisa pénètrent dans le hall, une infirmière les attend. Elle les dirige dans le bureau du médecin. Nous sommes de la famille de Charlène Durand. Et il faut que je vous parle, il y a un problème. Que se passe-t-il ? Charlène a perdu la mémoire. Rassurez-vous, ce n'est que momentané. Je suis heureux que vous soyez là. La gendarmerie a mis du temps pour vous appeler. Peut-être parce qu'elle a été dans le coma plusieurs jours. Êtes-vous son fiancé ? Demande-t-il à Jean. Non, je suis son frère. Bon, suivez-moi. Je vous emmène jusqu'à sa chambre. Si elle ne vous reconnaît pas, n'ayez crainte. Normalement, sa mémoire va revenir après un tel choc. Demain, elle devra passer un IRM afin de voir s'il n'y a aucune séquelle. Le scanner n'a rien révélé jusqu'à présent. Pendant que l'infirmière revient pour une nouvelle perfusion, je vois à l'embrasure de la porte deux personnes inconnues accompagnées par mon médecin. Mais qui sont ces gens ?
Au-delà de la vie de Martine Plattaré, un roman auto-édité.
Donc ben Martine, merci pour ce temps passé ensemble et puis bonne continuation parce que je pense que vous n'allez pas vous arrêter là.
Je vous remercie de m'avoir accueillie surtout et non, je ne vais pas m'arrêter là parce que je n'arrive pas à m'arrêter justement. Voilà.
Comment ça se passe ces temps d'écriture ?
Alors au départ, je m'y mettais plutôt le soir, même la nuit. Et puis après, j'en ai profité quand j'étais vraiment tranquille l'après-midi. Et après, j'ai testé quand même, quand j'ai commencé Au-delà de la vie, j'ai pris un bloc et je me suis remise à écrire à la main. J'ai tout écrit Au-delà de la vie à la main et rattrapé par le passé également. J'ai pas eu le courage pour Meurtre en eau trouble. J'en ai fait un quart et j'ai tout continué sur l'ordinateur. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de reprendre à la main sur un bloc parce qu'on se rend compte après des erreurs qu'on peut écrire, on peut reprendre des choses plus facilement et puis on peut trimballer son bloc partout où on va, voilà, tout simplement.
Hein. Ça aussi.
Voilà, plutôt que de prendre l'ordinateur sous le bras.
Merci Martine.
Merci beaucoup à vous.
Vous écoutez l'émission Autour du livre avec Annick sur RTVFM.
Tu serais l'ange et moi, le diable, deux amants, charme impie, toyable, l'un et l'autre, la proie d'un mirage indicible. Esclaves et maîtres de leurs désirs, ignorant le bien et le mal. Je serai l'ange et toi, le diable, insensibles aux louanges. Au blâme du commun des mortels, deux amants en cavale, évadés de l'enfer et du ciel, hors la loi du bien et du mal. Me damner dans tes bras, j'aime provoquer aux plus extrêmes limites du plaisir, même pudeur souveraine de ta féminité, affolée de désir. Et te voir indolente et sereine à la lueur du jour,
s'offrir à mon regard. La blanche nudité de ton corps apaisé dans les bras de l'amour. Les bras de l'amour.
Je rajouterai concernant Martine Plattaré qu'une des nouvelles de son premier roman autobiographique, qui s'intitule Souviens-moi, a été primée par le Centre culturel européen. Vous pouvez donc retrouver Martine Plattaré sur sa page Facebook sous l'intitulé de la librairie des inconnus, et là vous aurez tous les renseignements la concernant. Quelques dates aussi où vous pouvez la rencontrer. Le 28 avril au Cultura de Sorgues. Le 26 mai à Pierre Bénite, un salon auto-édition. Pierre Bénite qui est une commune située dans la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 9 juin à Cagnes-sur-Mer dans le Var. Et le 16 juin à Cavaillon, tout près de chez nous. Sans oublier tout près de chez nous, c'est-à-dire au Centre culturel de Carpentras, boulevard Naquet, donc. Et là, la date, c'est le 23 juin, de 10h à 18h. Donc, je vais continuer avec les petites annonces autour du livre. Au Centre culturel, donc boulevard Naquet de Carpentras, le samedi 14 avril, de 10h à 18h, Anna El Prado sera en séance dédicace pour son roman « L'équilibre des choses ». Avec l'association Bonheur de Lecture, trois dates à retenir. Donc le jeudi 19 avril à 18h30, à Carpentras, au Petit Théâtre de la Charité, Georges Siménon, Les Complices. Le vendredi 20 avril à Bédouin, dans la bibliothèque, la salle du conte lue, Marie-Hélène Lafont, Nos vies. Lundi 14 mai à Carpentras, au Petit Théâtre de la Charité, une autre lecture donc, de Marie-Hélène Lafont, Nos vies. Voilà pour les petites annonces. Nous allons prendre un temps musique avec toujours Jacques Higelin.
Tes bottines qui bloquent la machine, qui fait d'une ville un désert, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière infiniment petit ou grand. un grain de poussière. Perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Un rendez-vous que vous pouvez noter et écouter sur le 102.2 ou le www.rtvfm.net. Ce sont les chroniques de Dominique Lain, les premiers et troisièmes lundis et mardis du mois. Alors pour les horaires, le lundi c'est une diffusion à 10h10 et à 14h35. Et pour le mardi, donc deux passages aussi pour cette chronique, c'est 8h10 et 12h45. Nous allons donc écouter la chronique de Dominique Lain.
Aujourd'hui, nous allons parcourir les sentiers de l'exil de Françoise Bourdon chez Calman Lévy. Alors ce livre n'est pas très récent, je sais qu'elle en a sorti un ou deux, mais c'est un livre que j'ai aimé, donc j'aime bien en parler. Donc les sentiers de l'exil se passent dans les Cévennes à la fin du XVIIe siècle. Élie vit avec sa femme, Jeanne, et leurs trois enfants sur la terre de Jéricho, un domaine qui se transmet chez les Bragans depuis des générations. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 est un séisme pour cette famille protestante. Les Huguenots sont traqués et persécutés par les dragons du roi. Élie est chassé de sa terre, séparé de Jeanne, on lui arrache ses enfants. La famille est dispersée, chacun doit faire des choix vitaux, abjurer ou fuir, se cacher ou résister. Des sentiers de l'exil au couvent catholique, des cachots de Grenoble à une troupe de comédiens ambulants, des campements de camisards dans les Cévennes aux galères de l'arsenal de Marseille, les Bragans sont happés dans un tourbillon d'aventures et de drames, pourchassés par la haine mais sauvés par l'amour aussi, sans que jamais ne s'éteigne leur rêve de retrouver un jour Jéricho. Presque un siècle après sa promulgation par Henri IV en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, entraînant pillage, persécution, condamnation, exécution des protestants qui refusent de se convertir. Une grande partie d'entre eux préfèrent l'exil vers des terres d'accueil telles que la Suisse, l'Allemagne ou l'Angleterre. C'est là que commence le roman de Françoise Bourdon, en Cévennes, près d'Anduze, où le mas Jéricho appartient à la famille Bragan depuis des générations. Jéricho est cette terre promise, cette demeure idéale où se construit une histoire, une famille, presque une légende. La famille vit sereinement, presque en autarcie, grâce à la culture de fruitiers, de châtaigniers, de mûriers pour l'élevage des vers à soie. La religion protestante est très présente dans le quotidien. Les enfants naissent et les aïeux meurent sur le domaine comme une rivière coule sans fin. Tout pourrait aller pour le mieux, mais les Bragans sont protestants et les ennuis commencent. Les dragons s'en prennent à Jéricho, symbole de la famille, symbole du temps, de l'immuable, de la tradition. Pour avancer et résumer un peu, car ce livre pourrait contenir plusieurs histoires tant le fond est riche, la famille va éclater et chacun va suivre un chemin particulier qui restera, sera enfermé dans un couvent puis s'échappera sur les routes avec une troupe de comédiens qui s'exilera ensuite puis en Allemagne ou en Angleterre, qui sera condamné aux galères à Marseille, qui restera pour combattre les armées du roi. Les nombreux personnages de cette famille suivent leur destin. L'histoire alterne entre guerre, résistance et entraide, compassion, sérénité d'une nouvelle terre où les Bragans tentent non seulement de reconstruire un domaine, mais aussi se reconstruire, une histoire qui débute avec les générations qui arrivent. Les comportements humains, malgré le temps qui passe, se répètent inexorablement. Les exodes liés au massacre, au nom d'une religion, liés à la dictature, au manque de travail, ont jalonné le temps des hommes. Se reconstruire, retrouver des repères sans oublier ses racines, recommencer ailleurs en laissant tout derrière, terre, maison, biens, souvenirs, traditions, tel a été et sera encore le destin des peuples qui doivent fuir. On y trouve aussi le combat pour une terre, une religion, un mode de vie, avec les exploits guerriers, les massacres odieux, la délation, l'intérêt égoïste, mais aussi le soutien, la résistance, l'entraide, et surtout le questionnement sur l'intérêt et la raison de tout cela. Où se situe la frontière entre le bien et le mal? Chaque personnage de ce roman éclaire une facette de l'être humain pris dans la tourmente, les forts, les faibles, les scrupuleux, les rêveurs, les utopistes, les besogneux, tous s'y retrouveront. Ce livre est une ode à la fraternité, à l'entraide des hommes, à l'humanité. Il résonne avec notre présent, celui du siècle, celui d'aujourd'hui. Les sentiers de l'exil n'est pas seulement un carnet de route extérieur, il va bien plus loin. Tout homme chassé de son paradis se retrouve en exil et part dans une quête pour le retrouver. Il faut souligner la richesse des détails, des modes de vie au quotidien de toutes ces strates de la société, rois, galériens, médecins, saltimbanques, paysans, soldats, pasteurs. C'est là toute la force des romans de Françoise Bourdon, qui ne laisse rien au hasard, surtout pour ce projet auquel elle tenait, né il y a une bonne dizaine d'années. Si son éditrice a hésité à lui donner le feu vert, je peux lui dire aujourd'hui qu'elle aurait dû l'encourager, l'accompagner, lui dire bien avant « Vas-y Françoise, on te suit ». C'était Les Sentiers de l'Exil de Françoise Bourdon chez Calman Lévy.
C'était la chronique littéraire de Dominique Lain. Vous pouvez retrouver donc toutes ces chroniques littéraires en podcast sur notre site web www.rtvfm.net. Vous allez dans la rubrique podcast, chronique littéraire. Mon deuxième invité dans cette émission, Pascal Demeure, qui nous vient de la Fare-les-Oliviers des Bouches-du-Rhône. Et je vais lui laisser sans plus tarder la parole. Pascal Demeure, bonjour.
Bonjour Annick.
Alors Pascal, vous venez donc nous voir là sur Carpentras. Ça nous fait très plaisir de vous revoir en définitive, hein, parce que vous étiez venu l'année dernière, je ne sais plus quel mois.
C'était à peu près à la même époque, je pense. Oui. C'était pour la sortie de Bob et Raffi 1, du premier épisode. Donc content de revenir aussi voir les lecteurs et rencontrer les lecteurs de Carpentras.
Oui, depuis ce matin, là, c'est les dédicaces, ça n'arrête pas.
Mais pour l'instant, ça marche bien, c'est vrai. Oui. La journée semble bien partie.
Alors, votre premier livre, vous avez démarré à écrire à quel moment ?
Alors, c'était dans les années 95 et j'ai toujours aimé déjà écrire des cartes postales, des rédactions, des courriers. J'ai toujours aimé ça. Mais le déclic de l'écriture est venu suite à un contrôle de gestion dans mon entreprise où j'ai été mis sous pression, on va dire, pendant 2-3 mois consécutifs. Et le seul moyen que j'ai eu de me défouler, c'est de me lancer dans l'écriture d'une histoire qui par la suite est devenu un manuscrit et qui est devenu mon premier roman, tout à fait. Oui. C'était dans les années 95 et ça s'appelait La Maison Jaune, où je mettais en scène une jeune fille qui revenait sur les lieux de son enfance en Savoie, d'où je suis originaire, et qui redécouvrait la maison de ses parents et de ses grands-parents.
Donc ça, c'est votre premier livre et puis donc vous avez continué à écrire. Donc vous avez sorti Bob et Raffi, un premier livre, donc Bob et Raffi. Et là, donc vous avez sorti le deuxième épisode, c'est ça ?
C'est ça. Bob et Raffi, c'est une série policière pour les jeunes que j'ai lancée l'année dernière avec le premier épisode qui s'appelle Le Moulin Secret. Mmh. Et c'est un livre qui remporte un joli succès dans les classes de CE2 au CM2. Il met en scène deux petits jumeaux de 10 ans, deux garçons de 10 ans, deux frères, qui ont deux copines de classe, Marie et Anna, et un chien, Tatus, qui a beaucoup d'importance. C'est situé dans un petit village de France qui n'est pas nommé, donc on peut se l'approprier sur n'importe quel petit village de France. Et ces petits garçons et ces petites filles, ce sont des fouineurs, ce sont des mini-détectives, ils fouinent de partout, ils sont curieux de tout et ils s'embarquent automatiquement dans des histoires vers lesquelles ils ne devraient pas aller. Ça leur vaut quelques remontrances de leurs parents, mais ils continuent et ils aident malgré tout à résoudre des enquêtes. C'est un peu comme le Club des Cinq de mon temps, mais sans images. C'est vraiment un vrai petit roman pour eux. Et je dois dire que suite aux échos que j'en ai, des rencontres que je fais avec eux dans leur classe, que vraiment ils se l'approprient, ils sont vraiment dans les histoires et à fond. Hein, c'est vraiment des romans qui leur convient bien apparemment. Donc là, je viens de sortir le second épisode qui s'appelle Le Tatus perd la boule. Et le prochain épisode est en cours d'écriture et sortira pour les fêtes de fin d'année.
Ah super, beau programme. Sur Château Renard, il y a un événement, je crois un premier salon jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots ?
Oui, alors Château Renard a organisé le 24 mars un salon du livre, le premier salon du livre jeunesse. Et ont invité Bob et Raffi comme étant invité d'honneur de ce salon. Et j'ai eu la chance de rencontrer les classes qui ont lu Bob et Raffi. Il y a 4 classes de CE2 au CM2 qui ont lu Bob et Raffi. Et qui ont, de Château-Renard, tout à fait, des écoles de Château-Renard, et qui ont travaillé avec leurs professeurs sur le livre et qui ont écrit une suite au premier épisode, donc au Moulin Secret. Ils ont écrit une suite et cette suite-là, ils la jouent en public, sous forme de petites scénettes, Et c'est vraiment un moment important pour eux comme pour moi, parce que moi, je vois mes personnages qui prennent vie et eux rencontrent celui qui a écrit ces personnages-là. Donc, c'est vraiment des moments de partage et de rencontre qui sont très, très importants et qui font chaud au cœur. C'est vraiment des bons moments. C'est vraiment des grands moments, oui. Et Château Renard, donc, a fait ce salon du livre et auquel, donc, Bob Errafi a participé.
Alors, Pascal, vous avez écrit aussi une enquête, un roman policier. La lumière sous la porte, ça c'est votre dernier ouvrage.
Voilà, alors La lumière sous la porte, c'est le dernier roman adulte qui est sorti, donc chez Sudaren toujours. Et La lumière sous la porte, c'est un suspense que j'ai travaillé avec un psychologue. Et brièvement, il met en scène un jeune homme qui est à son bureau et qui découvre que tout est vide dans sa vie, dans son agenda, dans son calendrier, après le 31 juillet. Tout est blanc, il n'y a plus rien. Et on est le 25. Donc un compte à rebours commence, et ce compte à rebours va l'amener au 31 juillet avec une fin pour le moins surprenante.
De quoi nous donner envie d'en savoir plus.
J'espère.
Bon, mais voilà, donc Pascal, d'autres livres en cours, hein?
Mais pour l'instant, d'autres livres en cours, oui, dans la série Bob Errafi, oui, puisque il y a le troisième, et puis on est déjà sur un quatrième qui devrait sortir avant l'été prochain. Donc pour l'instant, je suis vraiment concentré sur cette série pour les jeunes qui a de la demande, et vraiment ils attendent la suite. Donc moi je suis vraiment content d'être avec eux pour cette aventure.
Donc tous vos romans sont édités à Sudaren Édition, c'est ça?
Tous les romans chez Sudaren Édition, c'est une maison d'édition donc qui est située à Hyères.
Lumière sous la porte a eu aussi un petit mot d'un monsieur médiatisé quand même. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, ça, on est très content de ça et très fiers à la fois. La lumière sous la porte a été présentée à Patrick Poirot-Darvor, qui a beaucoup apprécié cette histoire et qui en a d'ailleurs parlé sur LCI, et qui nous a autorisé à mettre un petit bandeau sur le livre, comme quoi ce livre est un de ses coups de cœur. Donc ça, c'est un petit plus dont je suis très fier.
Vous avez raison.
Voilà.
Merci Pascal Demeure, merci.
C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup.
La lumière sous la porte, un livre de Pascal Demeure, donc Sudaren Édition, quatrième de couverture. C'est en travaillant à son bureau que Frédéric comprend que rien n'est plus comme avant. Tout paraît pourtant normal, mais en ouvrant son agenda, l'angoisse l'envahit instantanément. Le dernier jour inscrit est le 31 juillet, et nous sommes le 25. Plus que 6 jours, déjà le compte à rebours commence. Armé de toute sa force, entouré des siens mais pourtant de plus en plus seul, Fred essaie de freiner cette machine infernale qui a pour seul but de l'anéantir. Tout bascule, sa vie se transforme alors en véritable cauchemar. Pour s'en sortir, il n'a qu'une solution. Malgré tout ce que cela implique, il doit franchir la porte. Un extrait de ce roman. Le téléphone sonna vers 2 heures du matin chez les deux âges. Dominique ne broncha pas. Elle dormait à poing fermé. Fred était loin dans ses rêves et cette sonnerie désagréable l'obligea à un retour pénible dans la réalité. Sans allumer, il se leva et à tâtons chercha des mains la porte de la chambre qu'il s'était prise une fois dans la figure en voulant aller trop vite. Dans le couloir, il ferma la porte de Damien et descendit l'escalier en maugréant. Qu'attendait-il pour faire installer un téléphone à l'étage? Il en avait été question à plusieurs reprises, mais cela n'avait jamais été une priorité. Pourtant, le côté pratique était indéniable, surtout en pleine nuit. Il eut la désagréable surprise d'entendre l'employé de la société de télésurveillance de l'agence à l'autre bout du fil. Il savait ce que cela voulait dire. De temps en temps, en effet, pas très souvent, mais par période, la société de surveillance perdait le contrôle de l'alarme mis en partant par le dernier employé de l'agence. Il suffisait d'une erreur dans l'enregistrement du code ou qu'un violent orage n'éclate pour que les bureaux ne soient plus sous alarme et donc sans surveillance. Dans ce cas, il était le premier prévenu et prenait ses dispositions. Bien souvent, il envoyait un collaborateur n'habitant pas très loin de l'établissement. Mais là, il était tout de même plus de 2 heures du matin. Il savait ce qu'il lui restait à faire, s'habiller et y aller. Une fois prêt, il glissa 2 mots dans l'oreille de Domi afin de la prévenir et sortit de la maison. La douceur de la nuit le surprit. Il n'y avait pas un nuage.
les étoiles scintillaient dans ce ciel qui donnerait tout son éclat et tout son bleu demain encore. Dommage qu'avec les soucis, pensa-t-il, on en oublie souvent à quel point la vie est belle. Le trajet jusqu'à l'agence située en zone industrielle de Valence Sud se passa normalement. Rapidement, il se retrouva devant le portail fermé de la cour. Il n'aimait pas beaucoup venir ici la nuit. Ce n'était pas très éclairé et bien sûr, il n'y avait personne. Les quelques lampadaires n'étaient pas suffisants et semblaient donner au bâtiment une dimension plus imposante, plus lourde qu'en plein jour. L'agence lui paraissait plus grande, avec ses bords de quai toujours éclairés la nuit pour dissuader tout éventuel visiteur indésirable. Tout était calme, étrangement silencieux. Frédéric n'avait plus du tout sommeil. Et plutôt que de remettre l'alarme et s'en aller sur le champ, décida de monter à son bureau. Il n'était pas venu ici de la journée et sentait le besoin d'aller voir par lui-même ce qui s'était passé. Il prit connaissance des appels ainsi que du chiffre d'affaires de la journée. Il resta assis à sa table de travail un bon moment et tenta de réfléchir. Tout à l'heure, avant d'être brutalement réveillé par le téléphone, il se trouvait si loin. Il ne savait pas où. C'était bien là-bas. Tout était silencieux, agréable, douillet. C'est du moins ce dont il se souvenait. Mais le fait d'être rappelé à la réalité par la sonnerie intempestive du téléphone accentuait certainement son impression. Pourtant, il était encore imprégné de la douceur et de la quiétude dans lesquelles il se trouvait alors, et avait juste envie d'y retourner. Et puis, il n'allait pas s'attarder ici à son bureau plus longtemps, en pleine nuit, à réfléchir dans son fauteuil. Ça ne rimait à rien. Il se leva donc et jeta nerveusement un regard sur son agenda. Allait-il oser ? De toute façon, il allait bien devoir le rouvrir un jour, ce foutu agenda. Et s'il avait simplement tout imaginé ? Peut-être cela aussi était-il le fruit de son imagination ? Fébrilement, du bout des doigts, il l'ouvrit, mais le referma aussitôt. Puis le jeta sur sa table, comme si le simple geste de le toucher lui brûlait les mains. Non, il n'avait pas tout imaginé. La réalité, sa réalité, était bien là, devant ses yeux, à lui jeter en pleine figure ce qu'il ne comprenait pas. Pourquoi toujours ces pages blanches après le 31 ? Qu'allait-il se passer ensuite ? Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Je vous retrouve bien volontiers le mois prochain avec d'autres invités à la clé pour votre plus grand plaisir. Bonne fin de soirée sur RTVFM 102.2.